Bonsoir à toutes et à tous, c'est dimanche soir, c'est l'heure du Grand Fauve. Au programme ce soir, Lou Alcindor, devenu Karim Abdul-Jabbar. Vous en saurez plus dans trois quarts d'heure. Let's go Marco.
Il faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Ouais, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
Quarter inch Lou Alcindor, 15-year-old sophomore at New York's Power Memorial Academy, who reminds everybody of Wilt Chamberlain.
Lou Alcindor, il est fort possible que ce nom ne vous dise pas grand-chose. Basketteur américain converti à l'islam qui a changé de nom en 1971 pour s'appeler Karim Abdul-Jabbar. Pas sûr non plus que ce patronyme soit connu de vous tous. Et pourtant, sa carrière est phénoménale au point de devenir une icône de la culture populaire américaine. Une trajectoire à part depuis 73 ans, avec une question ce soir. De quoi Karim Abdul-Jabbar est-il le nom ? Au programme ce soir, donc, deux invités au micro d'Inter pour nous conter la vie et le destin de Karim Abdul-Jabbar. Tout d'abord, il est historien des États-Unis, fin connaisseur du sport américain. Nicolas Martin Breteau est confiné en région parisienne. Il nous rejoindra tout à l'heure par duplex. Et à mes côtés, en direct et masqué, un autre historien des États-Unis, spécialiste des minorités, Pape Ndiaye, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à vous, c'est un plaisir de vous accueillir. Et puis juste avant le journal de 19h, la victoire en chantant de Pierre-Étienne Menanzio, ce soir le groupe AC/DC, du hard rock calibré pour les stades. Vous êtes bien sur France Inter, dans l'émission qui vous raconte la grande histoire du sport. À l'affiche ce soir, Karim Abdul-Jabbar, un géant parmi les hommes.
L'œil du tigre, Philippe Collin sur France Inter.
Alors, l'habitude est prise, nous débutons l'émission chaque semaine par la minute musculaire de Robert Reynaud, sémillant professeur de gymnastique qui sévissait sur les ondes de l'ORTF dans les 50s, une époque lointaine et dorée. Ce soir, le professeur Reynaud vous propose de travailler l'affinement de votre bassin. Pour ça, prenez votre fiche numéro 6, cette fiche que vous aimez tant.
Nous allons vous proposer un premier exercice pour commencer votre séance proprement dite, exercice d'ailleurs, qui est extrait de votre fiche numéro 6. Vous savez, celle qui vous permet d'éliminer les kilos superflus. Dans cette fiche, vous trouvez le numéro 4. Donc un exercice pour l'assouplissement de l'articulation des genoux, des chevilles et de la hanche, et en même temps pour l'affinement du bassin. Et aussi, bien sûr, pour la tonicité des muscles des jambes. Il s'agit, car c'est un mouvement très simple, de plier les deux jambes et d'aller vous asseoir sur les talons en maintenant le buste vertical. Et pour cela, il vous suffit d'abaisser les genoux suffisamment, c'est-à-dire de porter les genoux très près du sol et d'amener les deux bras tendus à la position horizontale. Voyez-vous, les deux bras sont tendus en avant à peu près à hauteur des épaules et cela vous permet un bon équilibre. Vous remontez par extension des deux jambes en laissant d'ailleurs retomber les bras le long du corps. Vous voyez, c'est absolument indispensable là encore toujours pour l'équilibre. Lorsque vous ramenez le corps à la verticale, lorsque vous revenez à la station debout normale, vous laissez retomber les bras le long du corps. Et vous répétez tout cela et bien jusqu'à fatigue suffisante. Et en musique, bien sûr, vous pliez les jambes et vous remontez. Vous pliez et vous remontez. Deux temps pour fléchir les jambes et vous restez là, puis vous remontez, deux temps également, pliez les jambes, remontez, c'est parfait. Continuez, s'il vous plaît.
Je l'adore. Après les fabuleux exercices du professeur Reynaud, c'est l'heure d'un colosse du parquet. Voici l'histoire du dimanche soir. Fataliste, perché tout en haut de ses 2m18, le basketteur noir américain Karim Abdul-Jabbar répète souvent « Je n'y peux rien. Personne n'aime vraiment Goliath. Tout le monde préfère David. » Allusion sans doute au fait que cette icône du sport américain des années 70 et 80 a toujours eu du mal à trouver sa place dans le paysage. Géant, noir et musulman, cultivé, star un poil mélancolique, taciturne parfois, espiègle souvent, un subtil mélange que n'a jamais su appréhender dans sa totalité la société blanche américaine. Karim Abdul-Jabbar demeure un être à part au milieu des hommes, un destin qui débute à New York, à l'époque où il s'appelle encore Lou Alcindor.
Notre aventure commence à New York en 1947, puisque c'est dans la grosse pomme en ébullition de l'après-guerre que naquit Ferdinand Lewis Alcindor le 16 avril. Ses parents étaient un couple d'origine caribéenne résidant à Harlem, au nord de Manhattan. Profondément catholique, les Alcindor reçurent un beau cadeau de Dieu ce jour-là, puisque leur fils unique mesurait 57 cm pour presque 6 kg à la naissance. Davantage éduqué que les enfants de son âge, avec qui il n'entretenait que peu de camaraderie, le jeune Alcindor trouva son salut dans le sport, et plus particulièrement le basketball, aidé par sa taille impressionnante d'1m86 à l'âge de 12 ans.
1m86 à l'âge de 12 ans. Pape Ndiaye, vous êtes historien spécialiste des minorités aux États-Unis. Alors le son que nous venons d'entendre est extrait d'un documentaire sur le web. Alors c'est pas tout à fait la couleur des sons que l'on passe d'habitude dans l'œil du tigre, pour une simple et bonne raison, Pape, c'est que figurez-vous que nous avons beaucoup recherché avec Marco Mutel, comme toutes les semaines, des sons consacrés à Karim Abdul-Jabbar, et il n'y a quasiment rien, ou presque, dans les archives traditionnelles de la France, c'est-à-dire l'INA. On ne trouve rien sur Karim Abdul-Jabbar à l'INA. C'est étrange. Comment vous expliquez ça, Pape ?
C'est sans doute parce que Karim Abdul-Jabbar était une personnalité assez discrète qui fuyait les journalistes, mais surtout parce qu'il a joué au basket professionnel dans les années 70, au début des années 80, à une époque où la ligue de basket professionnelle américaine, la NBA, n'avait pas du tout l'aura et la dimension mondiale que Michael Jordan, justement à partir des années 80, lui a donnée. Donc il est arrivé un peu trop tôt, en quelque sorte, par rapport à ce décollage du basket professionnel américain à l'échelle mondiale, et puis avec aussi les contrats publicitaires que Michael Jordan a largement utilisés.
Nicolas Martin-Bretot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vous aussi historien, spécialiste des États-Unis. Vous avez travaillé sur les corps politiques, on va dire. Autrement dit, le sport comme moyen de lutte pour les Noirs américains. Le corps, dites-vous, c'est le premier symbole de l'oppression raciale. Donc le sport est devenu en effet un moyen de se libérer pour retrouver une sorte de dignité, évidemment. Et dans le cas de Lou Anseldor, qui va devenir donc Karim Abdul-Jabbar, le corps a une place majeure, Nicolas, parce que c'est un géant et très jeune, il domine par sa taille.
Oui, c'est vrai, comme votre petit document audio l'a rappelé, il est très grand, très jeune, et adulte, il fait 2m18, c'est donc l'un des plus grands joueurs de l'histoire du basketball, non seulement du point de vue de la taille, mais également du point de vue du palmarès, évidemment. Et c'est quelqu'un qui est très grand, mais qui est aussi relativement léger, il a un physique assez longiligne. Il pèse une centaine de kilos, 100, 105 kilos, ce qui est relativement léger par rapport au gabarit actuel des grands basketteurs. Et dans les années 1980, où il commence à vieillir, hein, à avoir un petit peu une longue carrière derrière lui en NBA, il doit prendre un peu de muscle et il passe jusqu'à un poids de 120 kilos. Donc effectivement, c'est d'abord une présence physique, hein, Karim Abdul-Jabbar. Et vous rappelez que, voilà, comme tous les grands athlètes noirs américains, il a fait de son corps, pendant sa carrière et ensuite, un symbole de dignité de toute sa communauté, de tout son groupe racial, à la fois sur le terrain et en dehors. Et c'est la raison pour laquelle, pour les Noirs américains notamment, le sport a été une arme politique majeure dans leur combat de libération.
Pape Ndiaye, reprenons depuis le début. Il est né donc en 1947 à New York. Son père est policier, sa mère est employée d'un grand magasin. Il va d'abord grandir à Harlem, puis déménager à Inwood, qui est un quartier du nord de Manhattan, un quartier plus mélangé, peut-être moins insécure aussi. À quoi ressemble l'adolescence de Karim Abdul-Jabbar, Pape ?
Il vient donc de la classe moyenne noire. Il ne vient pas du monde le plus populaire. On peut d'ailleurs rapprocher ce profil de Michael Jordan, qui naît aussi à New York 16 ans plus tard. Et il est fils unique. Ses parents s'occupent beaucoup de lui. Ils veulent une bonne éducation. Ils rêvent de l'université pour lui. Et sa taille, en même temps que son talent, évidemment, le montre comme un grand joueur potentiel dès son enfance et puis son adolescence. Et il joue dans un de ces lycées catholiques de New York, la Powers Memorial. Et c'est là qu'on le remarque. Mais ses parents tiennent à ce qu'il aille à l'université, à ce qu'il ait une éducation. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va faire en allant à UCLA quelques années plus tard.
Nicolas, en effet, il va donc choisir de traverser le pays pour s'inscrire à UCLA en Californie, à l'université. Nous sommes en 1965. Il est déjà repéré, comme vient de le dire Pape, comme une immense future vedette du basket américain. Mais il arrive dans un territoire en pleine lutte. Il va vivre à deux pas du quartier de Watts, là où évidemment les Noirs se battent pour leurs droits. Quel impact va avoir ce voyage sur l'esprit de ce jeune New-Yorkais catholique, Nicolas ?
Bien, en fait, ce voyage est tout à fait important parce que, voilà, au milieu des années 1960, la Californie et en particulier UCLA sont parmi les principaux foyers de contestation politique dans le pays. Il faut se rappeler que l'année 1965, donc l'année pendant laquelle il arrive en Californie, est marquée par de multiples crises politiques aux États-Unis, notamment évidemment par le zénith hein, du mouvement pour les droits civiques. Par exemple, voilà, en mars 1965, ce sont les célèbres marches pour le droit de vote emmenées en Alabama par Martin Luther King. Et puis, c'est le passage de cette fameuse loi qui, donne le droit de vote à tous aux États-Unis, sans exception de race. Et, comme vous l'avez rappelé, quelques jours plus tard, néanmoins, pendant l'été 1965, c'est le soulèvement massif du quartier de Watts à Los Angeles, qui donne lieu à des scènes de véritable guerre civile à la télévision hein, et dans les rues, et qui frappe l'opinion publique. C'est un moment extrêmement important de contestation politique dans le pays, et le jeune Kareem Abdul-Jabbar, qui s'appelle pas encore Kareem Abdul-Jabbar, Lou Alcindor, en fait arrive en Californie au moment où il fait sa transition politique en passant d'un adolescent, si vous voulez, à un jeune adulte, dans la mesure où en 1964, donc l'année précédente, le soulèvement de Harlem l'a beaucoup marqué. Il en parle dans son autobiographie comme d'un rite de passage politique, intellectuel. Et voilà, il rencontre d'une certaine façon son destin intellectuel en arrivant en Californie. Et ça le marquera profondément pour le reste, non seulement de sa carrière, mais de sa vie publique.
Pape, il va aussi rencontrer le monde musulman, puisqu'il va se convertir. Il va changer de nom un peu plus tard, on y reviendra dans quelques instants. Mais son modèle, c'est Mohamed Ali, hein, notamment par le refus de participer à certaines compétitions. Les JO de 68 ont lieu à Mexico. Il doit effectivement faire partie de cette grande équipe de basket américaine qui va être médaillée d'or, d'ailleurs, à Mexico. Mais il refuse de participer à cette campagne olympique pour imiter, entre guillemets, enfin pour suivre les pas de Mohamed Ali. Dans quel contexte il rencontre le monde musulman de la Californie, Pape Lou Alcindor, encore Alcindor?
Alors, il se politise en Californie de façon très très évidente au contact de groupes noirs très politisés, y compris de groupes musulmans. Mais ce qui est décisif, c'est à l'automne 1967, la rencontre avec les animateurs d'une association, l'Olympic Project for Human Rights, qui vise au boycott des Jeux Olympiques de Mexico, mm-hmm. en dénonçant le Comité international olympique, ses liens avec l'Afrique du Sud, Avery Brundage, le président qui avait eu des liens avec les nazis quelques décennies auparavant. Et donc l'idée, c'est de lancer un boycott des Jeux qui finalement ne marche pas vraiment. Il est l'un des rares athlètes à refuser d'aller aux Jeux avec... d'autres athlètes de Harvard, de l'équipe d'Aviron. D'autres athlètes comme Tommy Smith et John Carlos, eux, choisissent de faire quelque chose à Mexico. Et ce sont les fameux points levés sur le podium des Jeux Olympiques du 200 mètres qui marquent le monde. Donc il fait partie de cette mouvance qui est une mouvance noire, assez politique, assez radicale, organisée autour de la baie de San Francisco, en particulier à San Jose State, là où Tommy Smith et John Carlos étaient étudiants, mais aussi à UCLA. Et c'est aussi dans ce cadre qu'il se convertit à l'islam, mais sans rejoindre Nation of Islam, le groupe de Mohamed Ali. Lui, il se convertit à l'islam sunnite, donc l'islam majoritaire en quelque sorte, et il a toujours pris ses distances par rapport à Nation of Islam, même s'il admire Mohamed Ali, qui justement en 67 perd sa licence, ne peut plus boxer pendant plusieurs années et est littéralement banni du sport américain et de la société américaine pour avoir refusé de servir comme soldat.
La guerre du Vietnam, évidemment. Nicolas Martin-Breteau, revenons au basket de quelques instants, puisque cet étudiant est brillant et sur un parquet. Il va régner sur le championnat universitaire américain, qui est très important, bien plus important qu'en Europe, au point que la fédération interdit le dunk. Vous savez, le dunk, c'est ce mouvement de basket où finalement on s'accroche au panier, on réussit à se propulser avec son corps pour s'accrocher au panier et marquer un panier. Or, il est tellement grand, Kareem Abdul-Jabbar, qu'effectivement, c'est très facile pour lui. Donc, on interdit le dunk dans le championnat américain pour contrer l'aisance de Kareem Abdul-Jabbar, mais il va quand même lui inventer un geste pour finalement se sortir de cette interdiction. Quel est-il, ce geste, Nicolas Martin-Breteau?
Oui, Kareem Abdul-Jabbar va inventer un geste qui est relativement neuf dans le monde du basketball à l'époque, c'est le skyhook. Effectivement, à cause de sa taille, Kareem Abdul-Jabbar en fait joue centre, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il joue poste bas, à proximité du cercle. Donc sa taille lui permet de recevoir la balle près du cercle, hein, assez souvent, et il ne se prive pas de dunker, hein, il le fait évidemment de multiples reprises dans les matchs, et c'est un geste de défi, hein, destiné à impressionner l'adversaire, et qui est mis à la mode dans les années 70 par des joueurs tout à fait magnifiques, hein, comme Julius Erving par exemple, et rapidement ce geste spectaculaire devient la marque des joueurs de basketball noir. C'est un peu l'époque, les années 70, où le basketball devient vraiment un jeu qu'on considère dans l'opinion publique comme étant un sport noir dominé par les noirs. Et en tout cas, la ligue universitaire, la NCAA, interdit ce geste en 1967 et tout le monde comprend que ça vise évidemment Alcindor. Et on parle d'ailleurs des Alcindor Rules, hein, des règles anti-Alcindor d'une certaine façon. Et donc, il invente un nouveau geste pour remplacer le dunk en apprenant, disons, à jouer plus loin du cercle. Et il travaille donc son jeu à distance et il met au point une sorte d'arme absolue, hein, si l'on peut dire, le skyhook. C'est une sorte de bras roulé en haute altitude, puisqu'il fait un crochet dans le ciel. Et évidemment, avec sa taille de 2m18 plus le déploiement de son bras, il est quasiment impossible de contrer ce geste, et ce bras roulé qui lui est tout à fait particulier est devenu sa signature, et c'est son apport peut-être principal au sport du basketball. Ce geste, ce tir en suspension à une main, où il utilise l'ensemble de son corps comme une sorte d'arc tendu vers le panier. C'est un geste d'une extrême précision et d'une grande beauté aussi, d'une grande finesse. Qui lui permet d'ailleurs non seulement d'être toujours actuellement le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, oui, mais également l'un des joueurs les plus précis, c'est-à-dire avec des taux de réussite les plus importants de l'histoire de la NBA. Puis c'est un geste qui sera repris plus tard par son coéquipier Magic Johnson aux Lakers de Los Angeles pendant les années 80. Ouais, absolument.
Pape, ce geste, je trouve qu'il résume assez bien l'esprit de Kareem Abdul-Jabbar. C'est-à-dire qu'il est contraint, il est interdit de dunker. Hein, les lois sont faites contre lui. Mais avec intelligence, malice, élégance, il va inventer un geste pour malgré tout avoir une signature, hein, un style. Et c'est montrer la voie aux autres aussi. C'est dire, invente ton destin. Nous sommes contraints, nous sommes interdits, mais nous pouvons inventer quelque chose.
Il contourne la loi, cette loi qui est faite pour lui, d'une manière générale, pour contrer aussi la multiplication des joueurs de basket noir à partir de la fin des années 60 dans les championnats universitaires américains. Donc, c'est aussi fait pour contrer cette transformation du basket qui devient un basket plus physique, plus engagé que le basket classique qui était celui des joueurs blancs. Et donc, lui, effectivement, il contourne cette loi pour faire de cette discrimination, finalement, un avantage et pour en faire quelque chose qui va ajouter à son jeu dans une fluidité, dans une précision, comme le rappelait Nicolas, qui force l'admiration et qui en fait un très grand joueur en dépit de cette contrainte qui pèse sur lui et sur nombre de ses camarades.
Pape, après trois folles saisons en championnat universitaire, les statistiques, comme on dit aux États-Unis, sont ahurissantes de Lou Alcindor. Il passe professionnel, il intègre la NBA, hein, donc qui est le championnat professionnel de basket américain, la prestigieuse NBA. Il signe son premier contrat chez les Bucks de Milwaukee, avec qui il gagne le titre suprême dès la deuxième année, hein, 71. Et là, dans la foulée, le 1er mai 71, il change de nom. Hein, c'est là qu'il devient Kareem Abdul-Jabbar. Il s'appelait Lou Alcindor, il devient Kareem Abdul-Jabbar. Comment réagit le pays?
C'est toujours difficile de se convertir à l'islam aux États-Unis quand on est une grande vedette. Mohamed Ali, anciennement Cassius Clay, qui s'est converti en 1964, a lui aussi payé un prix fort. Et Kareem Abdul-Jabbar a confié à la fois les difficultés qu'il a pu avoir avec sa famille, très catholique.
Il s'est fâché avec ses parents, d'ailleurs.
Il s'est fâché avec ses parents, semble-t-il. Et puis, il lui est aussi arrivé d'essuyer des huées quand il entrait sur les terrains des équipes adverses. Bref, il était visé en tant que musulman. Et cela est évidemment quelque chose qui l'a atteint, mais il a réagi, je trouve, avec une grande dignité. Au fond, il a fait là aussi, peut-être, de cette contrainte, comme pour le style de jeu, il en a fait une force, quitte à peut-être se refermer, ou en tout cas à fuir l'attention médiatique dans les années 70, alors qu'il était au fait de sa carrière.
Nicolas Martin-Marteau, pour terminer cette première partie, au début des années 70, Karim Abdul-Jabbar se blesse à un œil et le staff médical des Bucks de Milwaukee s'inquiète et le toubib préconise le port de lunettes, hein, des goggles comme on dit en anglais, comme un masque de plongée, vous voyez, ou de ski comme on peut avoir encore aujourd'hui. Et ça va devenir une signature, ça aussi. Il va le garder tout au long de sa carrière, ce masque, ces goggles. Karim Abdul-Jabbar devient aussi là précurseur d'un style à lui particulier avec cette paire de lunettes qu'il a porté toute sa vie.
Oui, c'est vrai. Étant donné sa domination sur les terrains, Karim Abdul-Jabbar est en fait la cible première des défenseurs de l'équipe adverse. S'il y a bien quelqu'un à stopper dans l'équipe de Karim Abdul-Jabbar, c'est lui. Et donc, il paye relativement cher cette domination sur les parquets en recevant des griffures, des coups, alors pas tous volontaires, hein, évidemment, mais notamment au visage. Et en particulier dans les batailles pour le rebond ou pour l'empêcher de tirer, puisque bloquer son champ de vision, c'est aussi l'une des dernières façons qu'ont les défenseurs d'éviter qu'il marque. Et bah, tant et si bien qu'il se blesse à la cornée et voilà doit porter des lunettes de protection pendant la plus grande part de sa carrière. Et effectivement, vous avez raison de dire qu'il crée un style. Vraiment très mode, très particulièrement 70s, oui. Voyez, un petit peu comme ça, comme des lunettes de ski hein, qu'on utilise aujourd'hui. Et puis d'autres joueurs plus tard, notamment son coéquipier des Lakers, James Worthy, portera lui également des lunettes de ce type. Et effectivement, il a créé une forme de style vestimentaire, si vous voulez, avec des ustensiles qu'on n'avait jamais vus sur le terrain, sur les terrains de basket avant ça.
On va faire une pause musicale avec une jeune artiste française qui répond au nom étrange de Bonnie, banane initiale, bébé. Le titre joué, Bluff, ainsi soit-il.
Laisse-moi te consoler, laisse-moi te rassurer, laisse-moi t'encourager, c'est bon pour la santé. Tant que t'es sur ta lancée, tu peux pas t'arrêter si ce n'est de penser. On doit tous perdre pour gagner, yaka yaka pioche si tu peux plus jouer. Bluff. Tu peux pas t'arrêter, surtout pas de danser.
Collegiate Basketball Championship is on the line in this final game of the NCAA tournament. UCLA in possession goes against Dayton. The Bruins superstar, towering Lou Alcindor, caps a brilliant season with another dazzling scoring exhibition.
L'œil du tigre, Philippe Collin.
When he's covered closely, he passes off to teammates. And if their efforts are unsuccessful, he provides the insurance, which puts UCLA ahead by a wide margin even early in the game.
Sur France Inter.
Lou Alcindor, jeune basketteur afro-américain surdoué et donc devenu Karim Abdul-Jabbar en mai 1971. Après 5 saisons dans l'équipe des Bucks de Milwaukee, en 1975, le prodige signe un contrat chez les Lakers de Los Angeles. Maillot jaune et mauve, Karim Abdul-Jabbar porte le numéro 33. Son aura dépasse très vite les parquets cirés. Avec son physique hors norme, son sourire espiègle et mélancolique, Hollywood s'empresse de lui proposer des rôles. Dès les 70s, alors qu'il est encore basketteur, il apparaît sur les écrans où il joue, entre autres, le copilote d'un Boeing en perdition dans une comédie bien loufoque, mais appelée à devenir culte au rayon des séries B.
Vol 209 à tour de contrôle d'Anvers, montons à 42 000 pieds pour vol de croisière. Reprenons contact à la verticale de Lincoln. Terminé.
Attends un peu, je te connais toi. Tu es Karim Abdul-Jabbar, tu fais partie de l'équipe de basket des Tigres de Los Angeles.
Je suis désolé mon petit bonhomme, mais tu dois confondre. Je m'appelle Roger Murdoch et je suis copilote.
Non, non, tu es Karim, je t'ai vu jouer souvent. Mon père a une carte d'abonnement.
Je crois que tu devrais retourner t'asseoir, Dury. Hein, Clarence?
Mais non, il ne dérange personne, ce petit, voyons, laissez tranquille.
Très bien, mais n'oublie pas que je m'appelle Roger Murdoch et que je suis pilote.
T'as la classe d'un grand joueur, mais mon père dit que tu travailles pas assez ta défense. Et il dit aussi que t'as plutôt tendance à t'endormir sur le terrain. Et qu'en dehors des mi-temps, on sent que tu fais pas beaucoup d'efforts.
On dit ça. Écoute, Joey, ça fait des années qu'on me débite ce genre de conneries. Seulement la nuit, moi, je suis là à me creuser les méninges. Dis à ton vieux de faire piloter ses idoles pendant 24 heures et on en reparlera.
Y a-t-il un pilote dans l'avion où effectivement le copilote Roger Murdoch est bel et bien joué par Karim Abdul-Jabbar? Pape Ndiaye, je rappelle que vous êtes historien, spécialiste des minorités aux États-Unis. Alors en effet, Karim Abdul-Jabbar devient dès les 70s une figure de la culture populaire américaine. Il tient une dizaine de rôles au cinéma et d'ailleurs dans de nombreuses séries également télévisées. Dans cet extrait, malgré tout, le jeune garçon, à travers son père, reproche à Karim d'être un peu dilettante sur le terrain, d'être un peu presque feignant. Même au cinéma, on lui fait des reproches assez vite finalement à Karim Abdul-Jabbar, Pape.
Il commence à jouer au cinéma dans un film de Bruce Lee, Le Jeu de la Mort, le dernier film d'ailleurs de Bruce Lee, en 1972. Et puis il fait un certain nombre d'apparitions dans des films et des séries télévisées dans les années 70 et 80, y compris dans le film que vous citez. Mais le reproche que lui fait le petit garçon n'est pas tout à fait juste, car la longévité de Karim Abdul-Jabbar est tout de même extraordinaire. Il a
incroyable.
Pris sa retraite à 42 ans,
c'est incroyable.
En 1989. Et ça signifie une chose, c'est qu'il a énormément travaillé pendant toute sa carrière. Il s'est énormément entraîné, y compris lorsqu'il vieillissait, surtout peut-être lorsqu'il vieillissait, à la fois en jouant au basket, bien sûr, mais aussi en pratiquant d'autres sports, y compris le yoga. Bref, c'est un bourreau de travail, en réalité, qui a un peu levé le pied dans les années 80, lorsqu'il vieillissait, un peu changé peut-être sa technique de jeu en jouant avec Magic Johnson à partir de 1979. Il n'empêche que il est très impressionnant par le zèle, le soin qu'il a mis à jouer au basket, son hygiène de vie personnelle aussi, qu'il a porté finalement jusqu'en 1989.
Nicolas Martin-Rotteau, vous êtes vous aussi historien spécialiste des États-Unis. Je voudrais quand même qu'on revienne aussi au basket, c'est important parce que ces années 80 qu'évoquait Pape à l'instant, c'est 5 titres de champion NBA pour Karim Abdul-Jabbar, des statistiques ahurissantes, plusieurs fois élu meilleur joueur de la saison. Il faut redire ce soir à ce micro, Nicolas, que Karim Abdul-Jabbar est un immense champion du sport américain.
Oui, c'est un immense champion du sport américain. Je pense qu'on peut même parler d'un monument du sport, non seulement américain, mais mondial. Pour le dire clairement, c'est l'un des deux meilleurs joueurs de basketball de tous les temps. Il y a débat évidemment entre les spécialistes, parce qu'ils se disputent ce titre avec Michael Jordan. Alors chacun jugera. Néanmoins, son palmarès est tout à fait exceptionnel. Il me semble que c'est 6 titres NBA. Hein. Je crois qu'il en gagne un avec Milwaukee et 5 avec les Lakers.
Absolument, mais 5 avec les Lakers, absolument.
Voilà, mais 5 avec les Lakers, ce qui est déjà exceptionnel. C'est quelqu'un qui remporte 6 fois le titre de meilleur joueur de la saison. Donc c'est plus que Jordan déjà. Il est encore, 30 ans après la fin de sa carrière, il est encore le meilleur scoreur de la Ligue. C'est complètement exceptionnel. Alors il sera certainement rejoint dans les années qui arrivent par LeBron James, mais voilà, c'est quelque chose qui est à remarquer. Et puis aussi, c'est quelqu'un qui est aussi un excellent défenseur. Il est très souvent élu dans les meilleures équipes défensives de la NBA, notamment pour ses qualités de rebondeur et de contreur. Donc c'est quelqu'un qui est hyper complet, et dont le palmarès est tout à fait époustouflant.
Pape, je reviens deux secondes à ce que vous disiez sur Bruce Lee. C'est important parce que, alors d'une part, il faut aussi rappeler qu'il a beaucoup joué dans des séries américaines, notamment Arnold et Willy, 21 Jump Street, Big Bang Theory. Il est resté dans la mémoire collective des Américains pendant 30 ans grâce à la télévision aussi. Mais Bruce Lee, c'est important parce que ils sont devenus très amis. On parle d'un film là qu'on évoquait à l'instant, mais ils étaient très amis. On raconte d'ailleurs que sa longévité est sans doute liée aussi à Bruce Lee parce qu'il l'a initié au yoga et que ça a donc permis l'entretien d'une grande souplesse du grand corps de Karim Abdul-Jabbar. Mais ça dit aussi deux choses peut-être de l'époque. Ce sont deux minorités asiatiques et afro-américaines qui, dans ces années-là, sont amies et triomphent à la fois au cinéma ou au basket. C'est-à-dire qu'ils racontent aussi cette histoire, tous les deux, l'un à côté de l'autre.
C'est une amitié assez brève, puisque Bruce Lee meurt en 1973. Mais ils se rencontrent et puis Karim Abdul-Jabbar est tout à fait passionné par les techniques de combat de Bruce Lee. La fluidité, l'efficacité du geste. Bruce Lee rejetait les dimensions plus spectaculaires. Il voulait quelque chose de très direct. Et Karim Abdul-Jabbar se signale aussi par son jeu, qui est un jeu très fluide, moins spectaculaire que le jeu de Michael Jordan. Par exemple, donc il me semble qu'ils se sont rencontrés dans cette économie du geste et puis aussi dans le fait qu'ils sont tous les deux californiens. Bruce Lee est né à San Francisco, donc il y a comme une rencontre entre le monde américain d'origine asiatique. Bruce Lee était de parents de Hong Kong et puis un homme venu de New York pour devenir une immense star de basket à Los Angeles.
Nicolas, Pape vient de parler de l'économie du geste, de l'élégance, de la retenue. C'est vrai que ça incarne très bien le style et la personnalité de Karim Abdul-Jabbar. Quand il quitte la NBA en 1989, il a 42 ans et on le sent déjà assez frileux sur le chemin que va emprunter la NBA, c'est-à-dire à la fois le show-off, le grand spectacle et l'argent, beaucoup d'argent. On sent que d'ailleurs il n'a pas vraiment réussi. Il aurait peut-être aimé devenir un coach, se reconvertir un peu dans le basket, mais on sent très vite que dès le début des années 90, il est un peu gêné à la couture par ce qui est en train de se passer dans le basket américain.
Oui, alors il participe à la grande période de ce qu'on appelle le Showtime à Los Angeles avec les Lakers, la génération Magic Johnson, qui développe un style de jeu tout à fait moderne et qui a inspiré des générations de joueurs et de joueuses après eux. Néanmoins, vous avez raison de souligner certaines distances par rapport à ce monde de l'argent roi qui se développe dans les années 1980-1990. Et il est frappant, moi je trouve, étant donné l'exceptionnelle carrière de Karim Abdul-Jabbar, de voir que finalement, son patrimoine est relativement faible par rapport à celui d'un Michael Jordan ou d'un Magic Johnson, ou évidemment de joueurs plus jeunes comme LeBron James. Et il a quand même essayé d'investir son argent avec un certain nombre de fondations, et en particulier une fondation très active à Los Angeles. Mais vous avez raison, il y a une certaine frugalité, une certaine retenue dans le personnage de Karim Abdul-Jabbar qui tranche en fait avec ce qu'on a pu voir à l'époque où lui quittait la scène des parquets américains.
Alors Pape Ndiaye, le prodige va se réinventer là où on ne l'attendait pas, enfin pas forcément. Il va se mettre à écrire des livres, notamment 6 livres, dont 3 best-sellers, et notamment des livres consacrés à l'histoire. Alors il n'est pas historien, comme vous deux ce soir, mais il a cette passion de l'histoire, et notamment il y aura un best-seller consacré à un bataillon de la Seconde Guerre mondiale. C'est un livre qu'il a sorti il y a à peu près une dizaine d'années, je crois qu'il y avait un énorme succès aux États-Unis. Quelle est l'histoire de ce bataillon, Pape Ndiaye ?
C'est un bataillon noir composé de soldats noirs de la Seconde Guerre mondiale. Il est dissous en 1955, à l'époque où l'armée américaine était ségrégée. Et c'est d'ailleurs au sein de ce bataillon que Jackie Robinson, ancien étudiant de UCLA d'ailleurs, comme Karim Abdul-Jabbar, grand basketteur, comme il deviendra aussi un grand joueur de baseball.
Qui va être un des premiers joueurs noirs à jouer dans la Ligue.
Le premier joueur noir à jouer en 1947 pour la Ligue professionnelle.
Jackie
Robinson.
Qui appartenait à ce bataillon, donc.
Exactement, qui appartenait en 1944. Et donc, Karim Abdul-Jabbar a écrit, au fond, il écrit sur l'histoire afro-américaine dans la poursuite des études qu'il a faites à UCLA, puisqu'il était diplômé d'histoire à UCLA. Donc, il a une passion pour éclairer des aspects peu connus de l'histoire américaine, y compris du côté de l'histoire militaire.
Pape, qu'est-ce qu'il incarne aujourd'hui, Karim Abdul-Jabbar, dans le paysage de la société américaine contemporaine ?
Il me semble qu'il il a montré la voie avec d'autres sportifs courageux qui se sont exprimés politiquement à la fin des années 60 et au début des années 70. Il a montré la voie à tous les grands sportifs qui, en particulier cet été, mais on peut aussi penser à Colin Kaepernick en 2015, ont exprimé leur solidarité à l'égard du mouvement Black Lives Matter, des équipes de basket, y compris les Milwaukee Bucks, l'ancienne équipe de Karim Abdul-Jabbar. D'autres équipes également se sont manifestées comme jamais. Et donc, c'est plus facile d'ailleurs aujourd'hui que maintenant, même si les contrats publicitaires et professionnels peuvent limiter l'expression politique. Et donc, on peut dire qu'il a ouvert la voie. Il a montré le chemin avec beaucoup de courage parce que boycotter les Jeux Olympiques, par exemple, c'était évidemment quelque chose de très difficile à réaliser.
Pape, c'est plus simple, c'est vrai et c'est pas vrai, dans le sens où peut-être que c'est prenons Kaepernick, par exemple, qui du coup, lui, donc Colin Kaepernick, est le grand quarterback de Californie, qui a posé plusieurs fois son genou à terre pendant l'hymne national américain en 2015 pour protester contre les violences policières à l'encontre des populations afro-américaines. Derrière ce geste-là, qui était symbolique, non violent, hein, répétons-le, non-violent. Voilà Kaepernick qui a une carrière brisée. C'est-à-dire que c'est la honte de l'Amérique, Pape, cette affaire Kaepernick, parce que il n'y a plus jamais une seule équipe sous pression de personne, hein, Pape, sous des pressions finalement de sponsoring et d'argent. On s'est dit, oh là là, Kaepernick, ingérable, trop dangereux, on va perdre de l'argent. Donc, aujourd'hui, Kaepernick ne joue plus au football américain. Ça, alors, c'était peut-être plus simple aujourd'hui parce que des grands comme Mohamed Ali ou comme Karim Abdul-Jabbar ont ouvert la voie. Mais Kaepernick, il paye très très cher son genou à terre quand même.
Ça lui a coûté sa carrière, un peu comme Smith et Carlos en 1968, qui n'ont plus jamais pu courir pour l'équipe nationale américaine, c'est sûr. Il s'est néanmoins passé quelque chose cet été avec, au fond, une mobilisation à très grande échelle, des équipes entières qui ont mis le genou à terre, parfois des entraîneurs et parfois aussi des propriétaires d'équipes qui ont approuvé cela. Bref, il s'est passé quelque chose entre 2015 et aujourd'hui. Mm-hmm. Mais il est sûr qu'en 2015, Kaepernick a, de manière très courageuse, au fond, sacrifié sa carrière. Il savait le risque qu'il prenait, mais il a considéré que manifester contre les violences policières, contre le racisme structurel de la société américaine, valait bien cela. Et ce geste-là demeure tout à fait exceptionnel et remarquable.
Nicolas Martin Breteau, aujourd'hui, il a l'image d'un vieux sage, Karim Abdul-Jabbar. Il est venu à Paris cette année au mois de janvier pour assurer une promotion de la NBA. On a vu un Karim Abdul-Jabbar le crâne lisse, dans la posture de l'apaisement, un sourire ravageur, mais aussi une barbe blanche. Est-ce que son corps est encore politique, vous qui avez beaucoup travaillé sur le corps politique des athlètes noirs, est-ce que le corps de Karim Abdul-Jabbar en 2020 est encore politique, Nicolas ?
Oui, je crois que son corps est un emblème de dignité, je dirais même un emblème visuel de dignité. Vous parlez d'un vieux sage, et c'est l'image effectivement qu'il a aujourd'hui. C'est quelqu'un qui écrit beaucoup dans les médias, notamment dans la presse, pour éclairer l'opinion publique avec des positions qui sont très souvent engagées, même si tout à fait calme et à l'image de la personne qu'il est depuis toujours. Mais Kareem Abdul-Jabbar, voilà, n'est pas le seul noir américain à user de son corps, de sa posture, de sa présentation publique, je dirais, comme d'une arme politique. Barack Obama, qui d'ailleurs aussi est lui-même un basketteur amateur, joue ce rôle. Et ce qui est frappant, donc, je crois, chez Kareem Abdul-Jabbar, c'est cette capacité à proposer une sorte de modèle de hauteur de vue politique, d'apaisement, tout en étant capable de dire clairement ce qu'il pense, notamment sur les questions de justice sociale et raciale, sur Donald Trump aussi, ça lui est arrivé, etc. Et voilà, de jouer un rôle de repère, de modèle, en fait, non seulement pour sa communauté, mais pour l'ensemble de la population américaine. C'est quelqu'un qui est vraiment écouté. Et qui est voilà respecté pour cela.
Merci à vous deux pour vos interventions ce soir. Sachez que vous pouvez lire Les Noirs Américains en marche pour l'égalité. C'est signé Pape Ndiaye, disponible en découverte Gallimard. Et vous pouvez aussi vous procurer le livre de Nicolas Martin Breteau intitulé Corps politique, le sport dans la lutte des Noirs Américains. Cette édition EHESS. Tout ça se commande en click and collect. Allez, un morceau de musique et on enchaîne.
I don't see nothing coming. Thinking of my prayers, maybe they were all misplaced. Good news I could use some. One man revolution. Hallelujah, take me to you, 'cause I'm lost alone again.
Little Runaway, chanson signée Céleste. On continue en musique avec La Victoire en chantant, le rendez-vous de Pierre-Étienne Minanzio, plume de l'équipe, notre partenaire cette année, ce soir, du hard rock calibré pour les stades. Pierre-Étienne, bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Alors, de quel artiste allez-vous nous parler ce soir?
J'ai reçu ces derniers jours de nombreux courriers d'auditeurs qui me demandait en raison de l'actualité anxiogène de mettre en avant des mélodies douces, tendres et rassurantes.
Oui.
Et je dois dire que je suis un petit peu ennuyé parce que j'avais une autre idée en tête en préparant la chronique d'aujourd'hui.
Quelle idée ?
Celle-ci.
Bien, disons un style musical un peu plus agressif que prévu. Parlez-nous d'AC/DC, Pierre-Étienne.
Oui, je vais donc évoquer aujourd'hui ce groupe culte de hard rock qui a sorti avant-hier son 17e album studio, Power Up.
Un disque qui parle de sport, je présume.
Pas vraiment. Mais il faut savoir que depuis sa création en Australie, en 1973, AC/DC a développé un lien très fort avec le sport de haut niveau. Ce groupe s'est d'emblée spécialisé dans des morceaux qui débutent par des riffs de guitare énervés et accrocheurs, soit la formule idéale pour chauffer un public avant une compétition. Par exemple, là, le titre qu'on vient d'entendre, Thunderstruck, qui date de 1990, est programmé avant chaque rencontre à domicile des Bulls. Il s'agit d'une franchise de hockey sur glace à Tampa, en Floride. Et ben, regardez sur Internet, on peut voir que les supporters des Bulls sont électrisés dès que les premières notes de cette chanson résonnent.
Mais tous les titres d'AC/DC sont utilisés pour mobiliser les fans, non ?
Oui, presque tous. Bon, on peut citer Highway to Hell, par exemple, un des plus célèbres tubes du groupe, sorti en 1979. Vous vous souvenez, ça commence comme ça.
Highway to Hell, qui veut dire autoroute vers l'enfer, et cette chanson a une vocation particulière dans les stades, donc.
Oui, en fait, Highway to Hell est diffusée avant des matchs couperets de sport collectif pour signifier à l'équipe visiteuse qu'elle va vivre un enfer. Alors, on a pu l'entendre ces dernières années à la Bay Arena, le stade de l'équipe de foot de Leverkusen en Allemagne, aussi bien qu'à la Trocardière, ah, une salle omnisport à Nantes. Mais il est vrai que le recours à cette chanson peut se révéler néfaste dans le cadre d'un sport individuel.
C'est-à-dire ?
Bah écoutez, je vais vous raconter une histoire. En 2015, j'avais interviewé pour l'équipe Thomas Morgenstern, un champion de saut à ski autrichien. Et il m'avait raconté que 3 ans plus tôt, alors qu'il était sur le point de s'élancer depuis le tremplin de Virkensund en Norvège, il avait soudain pris peur en entendant à la sono Highway to Hell ce qu'il avait perçu comme un mauvais présage. Morgenstern aurait d'ailleurs sans doute ressenti la même chose s'il avait entendu ce jour-là Hell's Bells.
Les cloches de l'enfer. Là encore, Pierre-Étienne, certains spectateurs trépignent d'allégresse en écoutant cette chanson dans un stade.
Absolument. Les premières notes de ce titre de 1980 sonnent un peu comme les prémices d'un formidable ouragan à venir. C'est pourquoi le club de rugby de Toulon, depuis 2008, lance Hell's Bells au moment de l'entrée des joueurs sur le terrain. D'ailleurs, en mars dernier, Louis Carbonel, l'actuel demi d'ouverture de Toulon, confiait à l'équipe avoir été très impressionné par ce rituel lorsqu'il assistait en tribune, dans sa jeunesse, au match de l'équipe première. Je le cite, « Hell's Bells me foutait des frissons ». Et cette chanson connaît également un franc succès aux États-Unis dans des enceintes dédiées au football américain ou au baseball.
Donc, pour résumer, vous êtes favorable à la diffusion massive des chansons d'AC/DC avant des matchs de sport collectif.
Complètement. Et j'ajouterai, à destination de nos auditeurs, que ces morceaux sont un excellent antidote à la morosité ambiante.
Je suis bien d'accord. Merci Pierre-Étienne. Je rappelle qu'AC/DC a sorti son 17e album studio vendredi dernier, Power Up, ça c'est le titre. Rendez-vous dimanche prochain, Pierre-Étienne, salut.
Salut.
À la semaine prochaine, ciao. Et voilà, cette 11e émission de notre saison 6 a été mise en onde ce soir par H2M, Henri-Marc Mutel, Junior, assisté aujourd'hui à la technique d'Henri Bérec. Merci à lui, merci à toute l'équipe de l'œil du tigre. Arnaud Jamin qui prépare cette émission avec moi. Thierry Dupin pour les scuds et Loïc Saulnier pour l'animation de nos réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine avec l'histoire du marathon de New York qui devait célébrer son 50e anniversaire ce mois-ci, mais le Covid-19 a empêché cette course mythique d'avoir lieu. Alors retour sur cette conquête de liberté au cœur de la ville, le marathon de New York. Rendez-vous dimanche à 18h10. D'ici là, passez une excellente semaine sur Inter. Salut et fraternité.